Produire de l'information sur un territoire par ses habitants et pour ses habitants, c'est tout le défi d'une action menée dans le pays de Redon, pile poil entre Nantes et Rennes. Ça s'appelle l'opération Libre. Le but de cette opération était simple, inciter la population à construire sa propre donnée pour son propre territoire. Bonjour Pierre-Yves Cavella.
Bonjour Pierre-Yves.
Oui, ça fait bizarre. Oui, on est entre Pierre-Yves dans cette première partie de l'EM. Alors, est-ce que c'est possible, avant de nous expliquer l'objectif de ce projet, Opération Libre, de nous expliquer ce qu'est l'association Tyriade, qui a été un petit peu à l'initiative de ce projet?
Alors, l'association Tyriade, c'est une association qui œuvrait autour de des pratiques collaboratives et des biens communs numériques.
Alors, ça regroupe combien de membres?
Alors, dans l'association, il y avait deux salariés, enfin trois à un moment donné, puis deux, et puis une dizaine de membres bénévoles, et puis tout un réseau aussi de gens avec qui on œuvrait sur les territoires. D'ailleurs, Tyriade, ça veut dire territoire en néo-breton.
Ça regroupe quel profil plutôt, quel type d'acteurs?
Souvent, quand on parle de numérique, on va penser un peu geek, un peu technicien. Et puis, on peut dire que dans l'association, on a un peu ce profil-là, mais au final, pas tant que ça. Nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment l'animation. Et puis, de se saisir du numérique, justement, pour œuvrer ensemble. Donc, l'outil numérique, pour nous, n'est pas une finalité. C'est un vecteur de faire ensemble.
Alors, pour revenir à ce qui s'est fait dans le pays de Redon, l'opération Libre, c'était quoi sa vocation? C'est peut-être un petit peu comme vous le disiez il y a quelques instants, c'est ça, c'est juste un prétexte en fait pour faire des trucs ensemble quoi.
Disons qu'on pourrait peut-être dire effectivement ce qu'est une opération libre. Alors c'est un événement tout simplement, qui dure deux jours et qui se déroule sur une commune. Et donc c'est un événement libre. Alors a priori les communes ont été libérées en 1945. Donc il faut plutôt prendre libre au sens de libre comme on l'entend sur Wikipédia. Wikipédia est une encyclopédie libre.
Alors, on va expliquer un petit peu tout ça parce que derrière ça, c'est la question des biens communs. En fait, c'est des données qui sont libres, accessibles, gratuites. C'est ça.
Alors la gratuité, moi je fais la différence. Souvent je dis, quand vous prenez une autoroute, enfin tout citoyen a la liberté de prendre une autoroute. Mais certaines autoroutes sont gratuites ou payantes. Donc je pense qu'il y a vraiment une distinction à faire. Quand on pense libre, numérique, on pense logiciel libre par exemple.
C'est ça, genre les applications type OpenOffice, LibreOffice, c'est les plus connues quoi, c'est la surface immergée.
C'est ça, exactement. Et puis très très souvent, la majorité des cas, effectivement, ils sont gratuits.
Et concernant les données, c'est la même question aussi?
Ce qu'on
peut trouver, par exemple, sur Wikipédia, on a des jeunes dans le studio là qui savent ce qu'est Wikipédia. On est en train de parler d'un truc qui les intéresse.
Exactement. Alors, on va parler de données, on va parler de savoir aussi sur Wikipédia. Et quand on est sur un espace numérique, quand on va sur Internet, quand on va sur une page web, des fois, il y a un petit mot en bas. Il y a marqué « les données de ce site web sont la propriété d'un tel ou d'un tel ». Et puis des fois, il n'y a rien marqué. Bon, de toute manière, dans les deux cas, ça veut dire que vous avez le droit de consulter l'information. Mais vous n'avez pas le droit de la modifier.
De la copier pour un exposé, par exemple.
Voilà. Vous n'avez pas le droit de la copier, puis de la modifier. Alors, ce qui est bien avec Wikipédia, donc une encyclopédie libre, c'est qu'on va pouvoir se saisir des informations, de les modifier. Et puis c'est comme ça que ça marche, en fait. Wikipédia, enfin par le passé dans une encyclopédie, il y avait des gens qui étaient payés pour saisir les informations. Là, qui saisit Wikipédia? C'est moi, c'est vous, ce sont les jeunes dans le studio demain qui contribueront à Wikipédia.
Alors, c'est un écueil qu'on est obligé d'aborder parce que l'information, c'est pas de l'information universitaire, c'est pas de l'information journalistique. Comment la qualifier cette information?
C'est quand même une information, c'est-à-dire que qui est modérée déjà, modérée a posteriori. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des Wikipédiens, qui parcourent l'encyclopédie pour voir effectivement ce qui est saisi, ce qui est ajouté à l'encyclopédie. Et pour que l'information puisse être maintenue, si demain matin je vais saisir une information dans un article, il va falloir que de pouvoir l'étayer. Donc en fait, sur Wikipédia, il y a quand même cette notion d'avoir des sujets traités sur lesquels on peut avoir des références universitaires, journalistiques ou autres.
Alors, pour revenir à ce qui s'est fait à Redon, est-ce que vous pouvez expliquer, du coup, aux auditeurs, ce qui s'est passé pendant 48 heures? Parce que ça s'est fait pendant un petit laps de temps, en fait.
Bah, il s'est passé, en fait, que 200 personnes, voilà, sur la commune, ont œuvré ensemble, se sont retrouvées déjà physiquement. Souvent, quand on parle de numérique, on dit le numérique, c'est un peu ce truc-là qui fait qu'on passe notre temps dans
derrière un ordi,
le nez dans son téléphone mobile, là, intelligent. Mais le numérique, si on le prend un peu dans l'autre sens, on peut s'en saisir aussi pour en faire un événement physique sur un lieu physique où les gens se rencontrent. Et sur ces 200 personnes-là, il y avait différents profils. Donc, il y avait les habitants de la commune. Enfin, en l'occurrence, des deux communes. Ça s'est déroulé sur les Fougerais et Payac, dans le pays de Redon. Et sur ces deux communes-là, il y avait les habitants de la commune. Et puis, il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, il y avait des gens qui, certains connaissaient, enfin, tout le monde connaît Internet, forcément, tout le monde a entendu le terme de Wikipédia.
Comment écrire un article sur Wikipédia, c'est autre chose.
C'est autre chose, voilà. Donc en fait, on peut dire que la majorité des habitants présents sur cette manifestation n'étaient pas passionnés par le numérique forcément. Ils avaient des centres d'intérêt différents. Certains c'était la biodiversité, d'autres c'était le patrimoine et voilà. Excuse-moi. Donc du coup, il y avait ces gens-là effectivement. Et puis il y avait d'autres personnes, alors venues de Paris par exemple. Des Wikipédias dont je parlais tout à l'heure, ça c'est constant dans une opération libre, des Wikipédias, donc des gens qui savent comment alimenter cette encyclopédie, sont venus, un petit groupe, et ils sont venus justement pour permettre d'apprendre aux gens à contribuer sur Wikipédia ou eux-mêmes contribuer, c'est-à-dire qu'on leur a par exemple donné des archives de la mairie qui ont pu ensuite être mises sur Wikipédia.
Ça s'est fait dans quel contexte? Il y avait un appui du tissu, enfin, je veux dire, des élus?
Oui, tout à fait. Alors, de toute manière, pour organiser une opération libre, et la première était de mémoire à Brocasse, dans les Landes, en 2013 ou 2014, ce qui va être bien, c'est d'avoir un support local. Donc, ça peut être une association, ça peut être un conseil de développement. Effectivement, ça peut. Il faut aussi, je pense, aller voir les élus. Alors pour des aspects pratiques, il va falloir trouver une salle. Alors c'est une salle des fêtes, une salle municipale, ça, voilà. Mais
en fait, il faut Internet aussi.
Une bonne connexion Internet, forcément. Et donc il faut vraiment aller vers le territoire. Il ne s'agit pas de débarquer en disant voilà, moi j'ai cette envie-là, puis je la filme tout seul, un peu dans mon coin, et puis je demande aux gens de venir. Non, en fait, il faut vraiment travailler avec le tissu local parce que c'est ça qui va permettre aussi d'informer de l'existence de l'événement. Et puis d'inciter voilà, les gens à venir contribuer. Quoi.
Est-ce qu'on peut faire un petit tour un peu de ce qui a été construit au travers de ces deux jours? Parce qu'il y a plusieurs thématiques qui sont plus ou moins traitées en priorité, parce que j'imagine qu'à 200, il faut bien coordonner tout ça. Quoi. Qu'est-ce qui prend, entre guillemets, qu'est-ce qui accapare le plus de temps dans tout ça?
Alors, on va dire que c'est un événement collaboratif. Et quand on dit collaboratif, il y a vraiment cet aspect de qu'est-ce qui va se passer exactement? Ben, on ne le sait pas, en fait. Quelles sont les priorités? Ben, on va voir. On va voir les 200 personnes qui sont là. Donc, je disais tout à l'heure, voilà, il y a des Wikipédiens. Donc, il va se passer des choses autour des articles concernant les communes. Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont là. Il y a des gens de la communauté OpenStreetMap.
Ah oui, on va en reparler de ça plus tard.
Alors, c'est, très rapidement, OpenStreetMap, c'est une carte libre. C'est le Wikipédia des cartes, en fait.
Voilà. Ouais, c'est le Wikipédia de la géographie, de la cartographie. Voilà. Quoi.
Et donc, ces gens-là, ils sont, ces contributeurs d'OpenStreetMap sont allés sur le terrain. Ils ne sont pas restés en salle, eux. Ils sont allés sur le terrain avec les habitants pour cartographier.
Mais alors justement, ça c'est une question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qu'on peut bien encore cartographier? Parce que pourtant, on a de la donnée, on a plein de données, on a les cartes de l'IGN, on a Google Earth. Qu'est-ce que peut bien apporter une cartographie, entre guillemets, qu'on peut dire populaire en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver sur OpenStreetMap par exemple?
Bah, disons qu'on va trouver déjà la liberté, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir réutiliser les données. on va pouvoir avoir cette liberté aussi de définir comment on cartographie, quels sont les petits outils, les petits mots-clés voilà, qu'on va pouvoir utiliser pour cartographier. Et puis on va avoir cette grande liberté de décider si on cartographie les bornes à incendie, les arbres sur la voirie, cartographier aussi les anciens noms de rue, par exemple. Donc en fait, on part de la carte. Et tout d'un coup aussi, on va vers la biodiversité, je parlais des arbres, et on va vers le patrimoine, je parlais des anciens noms de rue. Et donc en fait, ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que là où je disais tout à l'heure, le numérique permet de faire ensemble, les gens qui viennent à une opération libre, ils sont intéressés par la biodiversité ou le patrimoine ou l'histoire ou autre chose. Ces supports numériques permettent d'accueillir différentes thématiques en fait. Donc on va sur la carte OpenStreetMap, on va cartographier le réel. Voilà, tout ce que l'on voit, on va dire qu'on va pouvoir le cartographier.
Et imaginons que c'est de la production de données, ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un.
Effectivement.
Pourrait y avoir de l'exploitation, ça se passerait comment dans ces cas-là?
Dans ces cas-là, il y a, pour faire simple, il y a une condition alors incontournable, c'est de respecter le cadre de la licence. Une licence, en fait, c'est comme un contrat. Moi, si je te prête ma tondeuse, Pierre-Yves, je peux faire un petit contrat qui stipule les conditions d'utilisation de la tondeuse. Là, minimum, en résumé, il va falloir citer la source. Il va falloir dire les éléments de la carte, si c'est de la carto, les éléments de Wikipédia sont issus soit d'OpenStreetMap, soit de Wikipédia. Et en aucun cas, vous ne devez, et ça c'est juridique, vous réapproprier les données en disant c'est moi qui ai été cartographié, c'est mes données à moi.
Là, on est en train de parler en fait des licences Creative Commons en fait.
Alors, il y a différents types de licences en fonction des contenus, mais oui, effectivement, si on entend Creative Commons, on est bien sur ces notions-là. Quoi.
Ces choix de licences sont discutés avec le groupe, justement, c'est une manière de sensibiliser à la propriété intellectuelle sur les contenus
Alors, sur tel ou tel support qui sera libre, des fois, les licences sont fixées par avance. Donc, tout le jeu, c'est d'expliquer en quoi consistent ces licences-là, parce que c'est pas forcément encore bien connu, ça avance. Mais ensuite, d'expliquer le sens de ces licences-là. Donc, quand on va parler de licences, donc j'ai dit que c'était juridique. Hein. Donc, si on prend l'angle juridique, je pense qu'on va perdre beaucoup de gens. Ce qui va être intéressant, c'est d'évoquer le partage, les conditions du partage et sens du partage.
On peut exclure, par exemple, des exploitations commerciales. C'est-à-dire que si vous évoquiez la question, je sais pas, des bornes à incendie, le SDIS du 35, par exemple, les pompiers du 35 pourraient pas réutiliser cette carte.
Les conditions de réutilisation de la carte OpenStreetMap sont fixées dans le cadre d'une licence spécifique. Mais en fait, c'est pas trop la réutilisation commerciale dans ce cadre-là qui va gêner. C'est-à-dire que si moi, demain, je monte ma petite start-up, par exemple, pour faire une application, je sais pas, de mobilité, et donc du coup, il va falloir des données cartographiques, je vais pouvoir réutiliser ces données-là. À condition que je cite la source des données. Mais quand on va parler, donc quand on dit libre, comme tu disais tout à l'heure, donc c'est des communs numériques. Le soleil, c'est un commun. Plus je vais bronzer, il y a toujours autant de soleil pour les autres. Donc si je réutilise des données, des savoirs de Wikipédia ou des données d'une carte libre, les données, elles sont toujours là. Je les ai copiées, je les ai dupliquées en fait. Internet, c'est une machine à copier d'ailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne.
Là, on était sur OpenStreetMap, mais il y avait d'autres sites qui ont servi aussi à construire ce projet. Il y a OpenStreetMap, Wikipédia et Tela Botanica. Ce serait possible de nous en dire quelques mots? Je ne suis pas sûr qu'il soit très connu celui-là.
Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de Tela Botanica, mais c'est effectivement un espace, c'est un lieu numérique où des gens amateurs de botanique vont pouvoir aller contribuer. Et donc, effectivement, on parlait tout à l'heure d'aller dans une opération libre. Il y a des gens qui vont dire, mais moi, je veux pas rester en salle, quoi. Je veux pas rester parler de numérique. Je veux aller sur le terrain, je veux aller voir la biodiversité, je veux la qualifier, etc. Donc, des lieux comme Tela Botanica sont en ligne, sont des lieux, effectivement, où on peut contribuer.
Et 48 heures, justement, c'est pas un peu frustrant? Est-ce que c'est les bases d'un projet communal qui est mis en place, quoi, ou... où on a le temps de faire suffisamment quelque chose de sérieux, quoi, de crédible?
48 heures, alors déjà c'est sur un week-end effectivement, puisqu'il faut que les habitants puissent être quand même disponibles pour venir. Des fois, moi, l'autre jour, j'ai dit, tiens, c'est un lieu temporaire, voilà, quelque part. Ce lieu qui est la commune, temporairement, accueille, voilà, 200 personnes qui vont aller cartographier, etc. Bon. Une dimension intéressante, puis c'est vrai qu'elle a eu lieu aussi sur l'opération libre sur le pays de Redon, c'est on peut monter en place ses propres espaces, un wiki par exemple. Un wiki, c'est un site collaboratif où tout le monde va pouvoir aller contribuer. Et puis, je disais tout à l'heure, une opération libre, ça se monte avec des associations. Donc ces associations-là, si elles se saisissent un petit peu de ce qui a été fait sur ces deux jours, elles peuvent poursuivre effectivement cet acte-là au-delà de l'événement. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe sur le pays de Redon.
Ça se poursuit régulièrement. Il y a des gens investis qui travaillent encore sur le...
Eh bien, il y a des gens qui ont produit à suivre des cartes thématiques autour de producteurs locaux.
Alors, est-ce que c'est un discours qui peut convaincre les élus? Parce que je clairement, c'est quand même génial. C'est de l'investissement, quelque part, ça coûte pas très cher. Ça permet de valoriser des endroits, des lieux.
Moi, je pense que ça interroge le monde dans lequel on est. Et effectivement, quand on est internaute, voilà, comme nous tous, hein, autour de la table, on est à la fois récepteur d'informations, et puis on est consommateur aussi, on va voilà, acheter des choses. Mais on est émetteur potentiel d'informations. C'est quand on va cliquer sur le petit bouton commenter là, sur le blog de tel journal et mettre son avis, on contribue, quoi. Je pense que c'est vraiment une spécificité du monde d'aujourd'hui, c'est que ce numérique-là nous permet à tous d'être émetteurs d'informations, d'avis, de savoirs et contributeurs. Et je pense que travailler les enjeux politiques actuellement, là on parle de démocratie participative, voilà, on prend du temps à savoir ce que c'est, etc. Mais il y a cette dimension de contribution, quoi. Et c'est pas forcément naturel. Jusque-là, finalement, on lisait la presse, on écoutait les chroniques à la radio le matin, mais on ne donnait pas tant que ça dans son avis. Enfin, on le donnait dans le courrier des lecteurs, où il y avait très peu de place là, pour pouvoir le faire. Donc il y a un vrai apprentissage à faire, je pense, sur comment je me saisis du numérique pour contribuer et pour participer, quoi.
C'est quelque chose de politique, la question des biens communs ?
Oui. Pour moi, oui, je pense, oui. C'est effectivement le monde de demain. Donc le monde d'aujourd'hui, on a dit, il est empreint de numérique et partout, et ça tout le monde le sait, l'expérimente. Ce monde numérique, est-ce qu'on veut que ça reste ce qu'il est à la base, un lieu public et commun et partagé, ou est-ce que ça sera uniquement ce lieu où il y aura, vous savez, les GAFAM, là, les grands du numérique, est-ce que ça sera uniquement un lieu complètement investi par 1, 2, 3, 4, 5, 6 sociétés, quoi. Donc c'est un enjeu politique de réappropriation d'un espace qui doit rester public.
Mais comment on fait si le contenu n'est plus... le contenu, il peut être en bien commun, mais si le contenant... Si Internet n'est plus un bien commun, comment ça se passe? Là, c'est la question de la neutralité du web.
Exactement. Ben là, c'est des enjeux aussi importants. La manière dont on accède à Internet nous donne une représentation du monde. Si effectivement la loi ou telle entreprise, alors Google par exemple, décide de censurer, mais généralement on fait ça plus différemment, on met un peu de côté, c'est-à-dire qu'on change la représentation du monde des gens. Et à partir de là, on change la manière dont les gens vont pouvoir agir sur le monde. Ça, c'est quand même extrêmement politique.
Ouais. C'est un épisode de Black Mirror, sans doute, à venir.
Exactement.
comme quoi un projet mené sur Redon a bien plus de dimensions que le pays en lui-même, en fait. Quoi. Ça a permis d'impliquer les gens sur toutes ces questions-là, j'imagine. C'est évoqué aussi, c'est discuté.
On voit, y compris à travers les événements récents, depuis novembre, les gens descendent dans la rue pour s'exprimer, voilà, et donner leur avis. Pour rebondir, je pense que c'est comment un territoire aussi, les habitants d'un territoire se saisissent du numérique et des communs pour donner une représentation du territoire et s'exprimer et contribuer à faire ce territoire-là, quoi.
Et l'autre finalité, finalement, comme une action, d'une action comme celle-ci, c'était pas tout simplement de créer la discussion et la rencontre avec Antoine Defend, la connaissance de son propre territoire ?
Ça va de pair, en fait. Quand on parle des pratiques collaboratives, il y a des mots qui viennent assez rapidement. Il y en a un en particulier, c'est la convivialité. Voilà. Pourquoi les gens contribuent sur Wikipédia? Pourquoi les gens font des projets collaboratifs sur les territoires? C'est pour apprendre. Des fois, c'est pour se socialiser. Et puis, il faut que ça soit pour prendre du plaisir. Donc effectivement, parmi les 200 personnes qui sont venues à Payac et les Fougerets, encore une fois, ils ne sont pas venus pour faire du numérique. C'était l'occasion de sortir, c'était l'occasion de voir du monde, c'était l'occasion d'apprendre, c'était l'occasion de rigoler aussi. Ouais. Et c'était l'occasion de passer une soirée assez fantastique, tous ensemble, quoi.
Merci beaucoup, Pierre-Yves Cavella, d'être venu jusqu'à nous. On parlait d'un sujet qui se passait sur Redon, un petit peu loin de chez nous, mais Thiriade, c'est bien implanté dans le Finistère, pour resituer quand même.
Oui, alors effectivement, mais disons que l'association, elle est basée en Finistère, mais elle sort aussi du Finistère. Et pour reprendre un peu d'ancrage local, voilà, il y a une perspective à la rentrée. Il y a vraiment une envie forte d'expérimenter une opération libre sur le quartier de Samar à Brest. Donc en fait, là, on change un petit peu le format. On va expérimenter une opération libre de quartier, on va dire.
Mais comment ça se fait, en fait, si les auditeurs nous écoutent et se disent « Oh, mais on veut créer une opération libre, je ne sais pas, moi, sur le fou. Mmh. Comment on pourrait s'y prendre ?»
Je pense que la première étape, c'est d'aller taper « opération libre » dans un moteur de recherche que vous connaissez tous, ou alors Quant, par exemple.
C'est un autre. Pour citer un autre, c'est bien de temps en temps.
Voilà, une fois de temps en temps. Et puis vous allez tomber sur des liens, vous allez tomber sur une vidéo qui présente une des opérations libres qui a eu lieu par le passé. Vous allez tomber sur des liens qui expliquent un petit peu, effectivement, enfin qui font un peu le récit de ce qui se passe dans ce cadre-là. Ça, c'est déjà, je pense, la première étape.
Et si on veut aller faire un tour sur ce qui s'est fait sur le pays de Redon, donc qu'est-ce qu'il y a comme plateforme à visiter ?
Il y a un wiki, le wiki du pays de Redon. Et puis après, les données, parmi les données effectivement publiées en ligne, on va les retrouver aussi sur Wikipédia, ou on va les retrouver sur Wikicommons. Wikicommons, en fait, c'est cet espace qui permet de télécharger des photos, par exemple, des différents médias.
Il n'y a rien eu sur géodiversité ?
Non, effectivement. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Ça.
C'était la question piège. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Et si les auditeurs sont intéressés pour voir ce qui s'est fait sur Redon et pourquoi pas l'appliquer dans le territoire, n'hésitez pas à aller faire un tour donc sur le site.
Le site du wiki de Redon. Vous tapez wiki pays de Redon, vous tomberez dessus directement. Je ne sais pas, vous pourrez peut-être partager le lien.
Oui, on mettra le lien, sans problème. Merci beaucoup, Pierre-Yves.
Merci.